au 99.1 88.9 CFNJ. C'est Lanaudière PM, votre magazine d'actualité de fin de journée. Voici Claude Fournel.
Mardi 9 décembre à l'émission aujourd'hui avec Pierre Paquette, il sera question de l'ex-directeur de campagne de Sol Zanetti qui a choisi de quitter Québec solidaire pour se joindre au Parti québécois. Mathieu Lessard sera avec nous, président du syndicat de l'enseignement du Lanaudière. On va parler du fameux monsieur et madame et du vouvoiement des enseignants. Également Yves Perron, député bloquiste dans Berthier-Masquinongé. On va parler des interprètes pigistes. Guillaume Tremblay sera avec nous, maire de Mascouche et président de l'Union des municipalités du Québec. Il sera question du projet de constitution québécoise de Simon Jolin Barrette. Mais tout d'abord, le Québec vient de perdre une grande dame du milieu culturel, Béatrice Picard, femme de radio, de télévision, de théâtre, nous a quittés à 96 ans aujourd'hui. En 2018, l'auteur et journaliste Sylvain-Claude Filion publiait aux éditions La Presse la biographie Béatrice Picard avec l'âge, on peut tout dire. Il est avec nous au bout du fil. Bonjour Sylvain-Claude Filion.
Bonjour Claude.
Quelle grande vie remplie pour Béatrice Picard.
Oui, oui, oui. C'est ce qui la distingue le plus, je crois, c'est cette soif de vivre, de foncer qu'elle avait dès 18 ans, quand elle était à Paris, elle avait eu la fulguration en assistant à Andromaque au théâtre de l'Odéon, la Comédie française, et puis elle a eu comme une révélation. Elle voulait être avocate, elle, au début, pour défendre la veuve et l'orphelin, puis elle s'est dit, ben, je vais peut-être rejoindre beaucoup plus de monde au théâtre, et quand elle est rentrée de son voyage à Montréal, c'était en 1948, elle s'est inscrite au cours qu'on appelait le Studio 15 avec Jeanne Maubourg, et c'est là qu'elle est montée sur scène pour la première fois en compagnie, entre autres, d'André Lachapelle, qui étudiait aussi à cet endroit-là.
On dit que c'est une femme de caractère et qu'elle avait un grand cœur, une femme très généreuse.
Oui, ah oui, oui, oui. Premièrement, elle savait recevoir là d'une façon royale. Pendant les années 80 jusqu'au milieu, les années 90 aussi, elle jouait énormément au théâtre Jean Duceppe, parfois jusqu'à 2-3 productions par saison. Et généralement, le party de fin des représentations, c'était chez elle. Elle recevait tout le monde. Elle avait le sens de la fête. D'ailleurs, c'est une femme qui jusqu'à à la fin, a toujours pris sa flûte de champagne ici et là. Je dirais que c'était la seule boisson qui était aussi pétillante qu'elle.
Et Sylvain et Claude, lorsqu'on parle de Béatrice Picard, on parle beaucoup de théâtre, du grand théâtre, mais également du boulevard et par rapport aux émissions de télévision aussi. On pense aux émissions populaires comme Cribasile, Symphorien. Oui, oui. Elle a fait le théâtre des variétés avec Gilles Latulippe aussi.
Tout à fait. Et ça, c'est une anecdote que je raconte dans la biographie, d'ailleurs. C'est que, bon, au tout début, elle a commencé en 1952, comme tout le monde, à Radio-Canada. En fait, c'était la seule télévision. Et quand est arrivé Télémétropole, en 1961, à un moment donné, c'est Denis Drouin, avec qui elle avait joué dans des téléthéâtres plus sérieux, qui faisait son mari aussi dans un téléroman, qui lui dit « Ça te tente-tu de venir jouer? On va préparer une comédie. » C'est, d'ailleurs, Cré-Basile, c'était le premier sitcom de l'histoire de la télé au Québec.
À Télémétropole,
oui. Oui. Et puis, quand elle a annoncé à ses collègues ce qu'on appelait à l'époque « traverser la rue », on lui a dit « bon, c'est ça, tu vas faire une comique ». Et tout ça, c'était vraiment perçu comme un péché mortel là, de quitter Radio-Canada pour aller ce qu'on appelait le Canal 10. Ouais. Et elle, c'est une femme qui n'a jamais hésité à mélanger les genres. D'ailleurs, elle se défendait toujours en disant « La comédie, c'est de la comédie. Il n'y a pas de distinction à faire. L'important, c'est de rejoindre les gens, de les toucher, puis de les faire rire. » Et puis, au côté de théâtre, même si elle a fait des théâtres d'été ou des pièces, ben, dès ses débuts, elle avait joué au Rideau Vert, qui était une compagnie toute naissante. Mm-hmm. Elle a connu une espèce d'apothéose dans les années 80-90 chez Jean Duceppe, où elle elle a joué une quantité de rôles vraiment marquants et elle a joué sur scène d'ailleurs jusqu'en 2020 à peu près, jusqu'à la pandémie finalement, parce qu'elle avait participé à une tournée pour une pièce qui s'adressait au public adolescent qui s'appelait S'embraser d'elle aussi, on avait dit, sa dernière très, très grande prestation, c'était dans Les Reines de Normand Charette, qui était repris dans une mise en scène de Denis Marlowe. Et la critique avait dit d'elle qu'elle était impériale, parce que c'est sûr qu'avec ses 75 ans de métier, Béatrice était une femme qui se transformait. Elle ne jouait pas, elle devenait le personnage.
Une femme surprenante, souvent en avant de son temps. Elle a d'ailleurs donné naissance à 4 enfants entre 1955 et 1967, et ce, en dehors des liens du mariage. Et c'est étonnant, oui, là, pour cette époque-là.
Oui, oui. C'était une féministe avant l'heure.
Oui.
Elle l'a révélé, ça. Même c'est plusieurs gens du métier qu'elle côtoyait, elle ne le savait pas qu'elle n'était pas mariée. Ça a été révélé vers autour de l'an 2000, je dirais. Et puis à l'époque, elle raconte, c'est qu'à un moment donné, elle se faisait accompagner de lui. Puis il y a, je pense, c'était Huguette Pou qui écrivait une chronique dans un ce qu'on appelait à l'époque les journaux à potin.
Oui.
Qu'il avait présenté comme étant marié, alors elle a pas contredit, puis ça s'est pas su, mais c'était quand même formidable. Elle, c'était une femme que quand je veux aller du point A au point B, c'est ôtez-vous de là, j'y vais.
Sylvain Claude Filion, tu es auteur de cette biographie Béatrice Picard, Avec l'âge, on peut tout dire, et il y a de savoureuses anecdotes dans cette biographie-là. On apprend qu'elle a déjà sniffé de la coke.
Oui, selon ses dires, là, je peux pas parler pour elle, mais oui, elle mentionne qu'elle avait essayé la marijuana parce que, comme ça, si mes fils veulent en parler, ben je vais savoir de quoi je parle.
Ouais.
Et c'est avec, c'est connu, c'est écrit, c'est avec France Castel.
Ah, ouais.
À un moment donné, elles se sont retrouvées, je pense, dans un bar après une représentation, quelque chose, puis elle dit, ben tiens, je vais essayer ça. Et c'est merveilleux aussi de voir, à l'époque de la biographie, elle était encore jeune, elle avait à peine 88 ans,
ouais.
d'oser dire ça, et c'est un peu d'ailleurs, parce que ça devait être une biographie professionnelle, Béatrice n'a jamais aimé parler de sa vie privée,
ouais.
Mais en cours de route, elle s'est mise à me dire, ah non, écoute ça, je vais te dire ce qui s'est vraiment passé. Puis finalement, elle m'a tout déballé on est devenu une équipe, là. C'est formidable parce que c'est beaucoup plus que ce que j'espérais raconter. Et c'est de là qu'est venu le titre. Elle dit, coudonc, là, avec l'âge, là, on peut tout dire.
Sylvain-Claude Filion, je m'avance un petit peu, mais moi, dans mon esprit, j'ai l'impression que le gouvernement du Québec devrait y aller avec des funérailles nationales, offrir ça à la famille.
Je peux pas vous répondre. D'ailleurs, c'est souvent débattu depuis quelques années. Il y a toujours un petit peu de controverse parce que vous vous rappellerez, au printemps dernier, immédiatement, on a offert des funérailles nationales à Serge Fiori.
Et quand il y avait Victor Lévy-Beaulieu, oui.
Oui, qui est un monument de la littérature et qui était aussi un homme populaire, qui a écrit des téléromans extrêmement populaires, comme L'Héritage, Montréal PQ. Ça pose toujours la question, à un moment donné, si on fait des funérailles nationales à tout le monde, 10 fois par année, ça va perdre son cachet. Évidemment, je suis en contact avec la famille de Béatrice et tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'y en a pas été question parce que c'est devenu un sujet délicat, je dirais.
Sylvain-Claude Filion, merci d'avoir partagé avec nous ces moments de vie de Béatrice Picard et toutes nos condoléances, bien entendu.
Merci beaucoup, ça m'a fait plaisir.
Il est 16h15. Dans un moment, avec nous, Yves Perron, député bloquiste dans Berthier-Masquinongé. Pour la 8e édition de la veillée Pas de temps mort, les campagnards partageront la scène avec le prestigieux groupe de temps en temps.
J'aime les filles, toujours à qui on les fait. fesses dures.
C'est le party du jour de l'an à ne pas manquer dans Lanaudière. Le 30 décembre au Centre culturel Desjardins. Soyez-y. Spectaclegeuliette.com pour acheter vos billets.
Attention, Jean de Saint-Gabriel, ce dimanche 14 décembre de 10h à 14h, le Père Noël débarque à la station Arnoir rue Saint-Gabriel pour vous gâter. Les 100 premiers clients Arnoir repartiront avec une carte cadeau de 25$. Et ce n'est pas tout, on continue la fête avec un rabais de 10 cents le litre sur votre prochain achat d'essence. Venez rencontrer le Père Noël et ses lutins. Ambiance familiale et festive garantie. Ce dimanche dès 10h à la station Arnoir au 150 rue Saint-Gabriel. Ho, ho, ho! On vous attend. Des conditions s'appliquent.
La clinique podiatrique de Joliette vous informe.
Vous souffrez de callosité, de corps plantaire, de champignons ou d'ongles incarnés. Prenez rendez-vous dès maintenant avec mon équipe d'infirmières en soins des pieds. 450-398-PIED. 398-7433 ou podiatrejoliette.com.
Vu chez Super C, une coiffeuse professionnelle bien impressionnée par la coupe toute fraîche de son boucher. Parce que chez Super C, nos bouchers coupent la viande en magasin. Et en plus d'être vraiment bonne, notre viande est à super prix. C'est Super Super C. Détails et conditions au supercé.ca.
Ce soir, 18h, CFNJ présente T-shirt, jeans, basket directement de son studio conférence. En vedette, Gentil Corum.
Je m'en vais à la chasse pour chasser.
Je m'en vais à la chasse pour chasser.
Je me cache derrière un arbre et j'attends le gibier sur la rive d'Ondon de l'Aridane, sur la rive d'Ondon de l'Aridane.
Gentil Corum, ce soir, 18h à CFNJ. Une présentation de Pinard Ford Sainte-Julienne.
La saison des cadeaux est de retour et Hyundai vous en fait tout un avec le Boni des Fêtes Hyundai. Obtenez jusqu'à 1 000 $ en boni supplémentaire sur modèles sélectionnés. Plus, ne payez rien pendant 90 jours sur tous les achats en financement. Et si vous rêvez d'un nouveau VUS, obtenez jusqu'à 2 500 $ de rabais sur tous les Tucson 2025 hybrides rechargeables, en plus d'un financement à partir de 2,49%. Mais hâtez-vous, les rabais gouvernementaux seront réduits dès le 1er janvier.
Des conditions s'appliquent. Visitez Hyundai Canada pour les détails.
Lanaudière PM, affaires municipales.
L'Union des municipalités du Québec demande à ce que les villes soient reconnues comme étant des gouvernements à part entière dans le projet de constitution québécoise du ministre Simon-Jolin Barrette. Et François Morin en a discuté avec le président de l'UMQ et maire de Mascouche, Guillaume Tremblay, qui sortait tout juste de la commission parlementaire sur le sujet.
On a présenté la position de l'Union des municipalités du Québec en regard de la Constitution du Québec et selon l'organisme que vous présidez, c'est important là, que les villes aient droit au chapitre.
Encore aujourd'hui, en 2025, les municipalités font pas partie de la Constitution en tant que telle. Donc, nous, ce qu'on dit dans la prochaine Constitution québécoise, l'Union des municipalités du Québec demande haut et fort que le monde municipal fasse partie intégrante du projet de constitution. C'est simple, hein? Une ville maintenant en 2025, mais joue un rôle important dans chacune des communautés. On a un pouvoir de fiscaux, on a un pouvoir de législation, donc on met des règlements, mais on a aussi un pouvoir de sécurité au pourtour de nos citoyens, on gère des services de police. Donc pour nous, clairement, on est un gouvernement à part entière. Et c'est pas pour rien qu'on demande aujourd'hui au gouvernement du Québec de nous introduire à l'intérieur du projet de loi numéro 1 sur la Constitution.
Et quel a été l'accueil, justement, à votre proposition?
L'accueil du gouvernement du Québec, il faut savoir que ce projet de loi-là a été mis de l'avant sans nécessairement consulter personne. Nous, on est en commission parlementaire un peu comme sur une consultation, puis on est venu expliquer haut et fort que le monde municipal va être en accord avec un projet de constitution si et seulement si on fait partie intégrante du projet de constitution. Donc, la balle est dans le camp du gouvernement du Québec puis au ministre Simon Barrette.
Et est-ce que je comprends du communiqué qui a été émis à la suite de votre sortie en commission parlementaire? Sinon, il y a certaines dispositions qui pourraient empêcher les élus d'échanger avec les homologues fédéraux, de participer à des commissions parlementaires ou même de contribuer à l'élaboration de politiques fédérales. C'est quand même un peu particulier.
Ben oui, d'autant plus qu'on en rencontre souvent des députés. Hein? On parle à nos députés locaux des fois d'enjeux nationaux quand il s'agit de subventions. Bon, on fait un peu de pression, on rencontre les ministres, on rencontre les députés. Donc, pour nous, c'est comme un non-sens. Puis de contester une loi, un peu comme le Québec, des fois, conteste des lois au niveau fédéral, ben nous, on pense, comme gouvernement de proximité, ben c'est normal, des fois, qu'une ville décide de contester un alignement ou une prise de position faite par le gouvernement du Québec ou du Canada. Pour nous, c'est un non-sens de venir nous dire qu'on ne peut pas qu'on rien contester devant la Cour. Maintenant, M. Barrette nous a entendu. On va laisser faire son travail de législateur avec l'ensemble des collègues parlementaires. Puis on souhaite ardemment avoir un projet de loi modifié. À bientôt.
C'est quand même assez particulier dans le contexte actuel où on dit aux municipalités, ben là, vous parlerez pas avec le gouvernement fédéral alors qu'il y a une bonne partie de l'argent qui est encore attendu, qu'on chicane encore entre Québec et Ottawa pour obtenir des sommes importantes.
Ben tout à fait. Écoutez, se poser la question, c'est y répondre indirectement parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de pression qui est faite par le monde municipal justement lorsqu'il y a des sommes qui sont à Québec puis, ou à Ottawa puis qu'il y a de mésentente entre le gouvernement provincial et fédéral. Nous, de notre côté, ce qu'on demande, c'est justement de retirer cet article-là d'un et de deux, de s'assurer que le monde municipal fasse partie de la Constitution. Ça, c'est on négocie pas cette non-participation à l'intérieur du projet de loi numéro un.
Ben voilà, c'est François Morin qui s'est entretenu un peu plus tôt avec le maire de Mascouche et président de l'Union des municipalités du Québec, Guillaume Tremblay.
Lanaudière PM, politique fédérale.
Le Bloc québécois craint que les députés francophones et en bout de ligne, les électeurs, soient défavorisés par de récentes modifications qui ont été apportées au processus de sélection des interprètes pigistes. Et le député de Berthier-Masquinongé, Yves Perron, appréhende une baisse de la qualité de l'interprétation, comme il l'a expliqué à François Morin.
Oui, parce que on est très inquiets, voyez-vous, on je suis là-dessus depuis l'automne. D'abord, le service d'interprétation, de traduction de la Chambre des communes ont décidé de changer la façon dont ils octroient des contrats, puis d'aller au plus bas soumissionnaire. On n'a qu'à penser aux mauvais souvenirs de dépassement de coûts dans les différents travaux de la fonction publique quand on utilise cette technique-là, c'est jamais la bonne. Puis dans l'interprétation, c'est extrêmement grave parce que les gens ont des qualifications puis de l'expérience. Si on y va au plus bas soumissionnaire, ça veut dire que c'est celui qui charge le moins cher, hein? Donc, les gens qui ont une expertise, par exemple, des juristes qui font l'interprétation au comité de la justice, ben là, ça pourrait être n'importe qui. Des gens qui font ça depuis de nombreuses années, ben, n'iront pas travailler à rabais. Donc, on se trouve à se priver d'une expertise énorme. Puis, c'est important parce que c'est encore les francophones qui vont payer. C'est plus que 80% là, des discussions qui se passent en anglais au Parlement du Canada, on va se le dire, là. On nous fait croire que c'est notre pays, là, mais ça se passe tout en anglais. Alors, quand y arrivent les débats et que le niveau de discussion devient très complexe, c'est essentiel d'avoir des interprètes de qualité pour pouvoir permettre aux députés d'avoir une compréhension fine des enjeux. Si le député n'a pas toute l'information ou une bonne compréhension, il peut pas faire son travail adéquatement. Les citoyens, les citoyennes des circonscriptions francophones valent pas moins cher que ceux des circonscriptions anglophones et leur élu a le droit de faire son travail convenablement. Fait que c'est ça qu'on défend depuis le début.
Et c'est sans compter les problèmes techniques auxquels on assiste nous-mêmes les journalistes là, à l'occasion, on en manque des bouts.
Ah ben ça fait partie des coupures aussi. Vous savez, quand on met des interprètes à distance, l'interprète, là, c'est pas, tu sais, pour les gens à la maison, là, c'est pas une traduction, là, c'est une interprétation. Donc, il doit écouter dans une langue, il regarde les expressions faciales, il comprend le ton de la personne qui parle, et il le transmet dans l'autre langue, mais il va utiliser parfois d'autres mots, d'autres expressions, parce que c'est une interprétation. Donc, c'est un travail qui est extrêmement complexe, extrêmement exigeant. Puis quand on les met à distance, ben il y a des délais, ils voient pas l'expression faciale des gens qui s'expriment. Ils sont souvent deux ou trois interprètes qui vont prendre le relais l'un de l'autre. Ben là, il peut avoir plus d'espace au moment où il y a un relais d'interprète. Donc, on perd d'informations pour les francophones. Les problèmes, on les voit souvent quand c'est à distance. Puis au-delà de ça, il y avait autrefois un système d'évaluation. On les évaluait régulièrement, puis il y avait des cotes. Vert, jaune, rouge. S'ils se ramassaient avec la cote rouge, ils devaient être réévalués. Puis ça, c'est pour assurer une qualité de service. Ça, on a enlevé ça. Vous savez, si on fait pas d'évaluation, on trouvera pas de problème. Non, il n'y a pas d'enjeu. Puis là, on est en pénurie. Fait qu'est-ce qu'ils viennent de faire? C'est la raison de la lettre puis de la sortie, là. C'est que là, ils viennent de changer l'examen d'admission. L'examen était traditionnellement appliqué par 4 interprètes d'expérience du Parlement. Et c'était extrêmement difficile de réussir l'examen. Souvent, il y avait 0 personne qui réussissait. Il y a un examen au mois de mai, là. Aucune réussite. Des fois, 3, 4, 5. Il y a une fois, il y a eu 6 personnes, c'est exceptionnel. Là, on a dit, on va mettre un auditeur externe. Puis, il paraît que c'est une personne qui a enseigné à ces gens-là à l'université en plus. Fait que cette personne qui a enseigné va se trouver à évaluer ses élèves, donc conflit d'intérêts potentiel, et ses votes valent autant que les 4 votes des interprètes d'expérience de la Chambre des communes. Vous m'avez bien entendu, là. 1 pour 4. Si jamais c'est égal, c'est l'administration qui décide. Je vous laisse deviner ce qui va arriver. Il va y avoir plein de nouveaux diplômés, là. On attend avec impatience les résultats de l'examen du 7 novembre qui a été fait avec ces nouveaux critères-là. Nous, on pense que, ben, il y a plus de pénurie, on va faire passer tout le monde. Puis à ce moment-là, après ça, c'est qui va souffrir de ça? C'est les élus francophones.
Parce que, justement, la traduction ou l'interprétation ne sera pas nécessairement fidèle au réel propos.
Et voilà, puis ne serait-ce que de manquer des informations, ne serait-ce que de pas avoir de finesse, c'est extraordinaire le travail que ces gens-là font au quotidien. C'est pour ça que nous on travaille, on les soutient beaucoup, on a fait beaucoup de mesures pour protéger leur santé auditive aussi, parce qu'il peut avoir des retours de son quand les gens sont à distance, la qualité du son n'est pas bonne. Souvent un interprète va signaler la qualité du son n'est pas convenable pour faire une interprétation, ainsi de suite. Donc c'est important, monsieur Morin.
Et dernière question, est-ce que à tout le moins le cabinet du ministre Lightbound a accusé réception et vous a offert, entre guillemets, une rencontre?
Je n'ai pas eu de réponse, mon cher monsieur. Je suis là-dessus depuis l'été passé. L'été passé, j'avais des discussions avec M. Lightbound qui devrait me revenir, qui ne m'est jamais revenu. Là, quand j'ai vu j'ai appris de la part de l'Association des interprètes les changements à l'examen, parce que c'est évidemment pas l'administration qui nous ont dit ça. Là, j'ai écrit cette lettre-là, j'ai pas eu de réponse encore. Faut savoir aussi, M. Morin, que moi, avant de crier, lancer l'alerte comme je le fais ce matin, là, J'ai fait mes devoirs, là. J'ai rencontré l'Association des interprètes indépendants, j'ai rencontré le syndicat des gens qui sont des permanents à la Chambre des communes, et j'ai aussi rencontré les gens de l'administration, leur expliquant que ma démarche n'était pas contre eux, mais pour eux, parce qu'on est dans une dynamique de coupure budgétaire. Je ne voulais pas que ce service-là soit coupé. Et je leur ai expliqué ça, puis mes craintes. Un mois plus tard, on les reçoit au bureau de régie interne. Ils sont arrivés avec une espèce de document sans aucun contenu où on dit simplement que on est donc bon puis fin puis l'examen va faire preuve de tout. Et quand je leur disais, vous pouvez pas retirer l'évaluation, ils me disaient, inquiétez-vous pas, Monsieur Perron, l'accréditation va faire preuve de la qualité. Puis là, ils viennent de changer l'examen. Fait que dans le fond, ils rient de nous autres, là.
C'était le député du Bloc québécois dans Berthier-Masquinongé, Yves Perron, avec qui François Morin s'est entretenu un petit peu plus tôt là aujourd'hui, les 16h29.
La circulation est une présentation de Joliette Nissan. Contactez-nous au 450-756-4686 parce que chez nous, ce qui compte le plus, c'est vous.
La métropolitaine pour Charles de Gaulle, ça devient plutôt dense à l'approche de Marien et ce jusqu'à la hauteur du pont. Détachement du CN, on franchit aisément la rivière des Prairies. Repentigny, 40 Est, c'est un peu lourd, secteur du boulevard industriel. Sinon, pour la suite, ça va bien. Pont Le Gardeur, accès facile autant par Sherbrooke que par Notre-Dame. 25 Nord pour Terrebonne. Je remarque depuis la rivière des Prairies, ouais, assez chargé et ce jusqu'à la hauteur du boulevard des Mille-Îles. Sinon, on traverse aisément vers l'île Saint-Jean et Terrebonne. 25 Nord, Terrebonne, Mascouche, ça va. Pont Sophie-Masson, un peu nombreux à l'approche. La traversée quand même facile. Et finalement, autoroute 640 entre la 25 et la 40. Direction Est, un peu plus nombreux à partir de la montée des Pionniers. En direction Ouest, c'est un peu dense, secteur de la montée du Mai. Les nouvelles avec Pierre Jubinville dans un instant.
Tout le contenu de votre radio dans une seule application. L'application CFNJ sur Android et Apple.
Bingo! Jouer au Super Radio Bingo de CFNJ, c'est payant.
Ils ont joué gagner au Super Radio Bingo le dimanche 7 décembre. Gang 66 et 67 avec la ligne des N. René Lemieux de l'île du Pas. Isabelle Majot de Saint-Félix de Valois. Catherine Blais de Saint-Ignace de Loyola. Valérie La Jeunesse de Sainte-Béatrix. Jocelyn Chrétien de Joliette. Et Dany Germain de Saint-Charles-Borromée. Remportent 1333 et 33 avec leur carte pleine. Rachel Dionne de Saint-Félix de Valois. Une carte achetée au métro Boucher de Saint-Félix. Chantal Blanchette de Saint-Michel-des-Saints grâce à une carte achetée au Proxy Extra. Et Francis Valois de Sorel-Tracy qui s'est procuré sa carte chanceuse au dépanneur Saint-Gabriel de Sorel-Tracy. Quant à la carte pleine de la deuxième chance, le 600$ a été partagé en trois. 200$ pour Sylvie Poirier de Saint-Barthélemy grâce à une carte achetée à l'épicerie Chondou de Saint-Culbert. Louise Trudel de Saint-Gabriel grâce à sa carte achetée au Doloratou. Et Carole Bernache également de Saint-Gabriel qui s'est procuré sa carte chanceuse au Proxy Extra Arnois de la rue Saint-Gabriel. Mercredi à 19h30, carte pleine à 5000$ et 5000$ à gagner tous les dimanches matins à 10h05 avec les trois jeux. Les Super Radio Bingo de CFNJ, c'est amusant et payant. La liste complète des dépositaires des cartes est à cfnj.net et sur l'appli CFNJ section Super Radio Bingo. 18 ans et plus, le jeu doit rester un jeu.
Jusqu'au 24 décembre, les Galeries Joliette t'invitent aux gourmandises du terroir. Prépare tes papilles parce que ça va goûter le bonheur d'ici. Viens rencontrer des producteurs passionnés, découvrir des saveurs locales et te gâter avec des douceurs artisanales parfaites pour les fêtes. Fromage, chocolat, bouchées festives, produits maison, tout y est pour remplir ton bas de Noël et ton ventre. Les gourmandises du terroir jusqu'au 24 décembre aux Galeries Joliette. Le rendez-vous des amateurs de bons produits juste à temps pour Noël.
Le premier festival trad du sud de la Naudière débarque à l'Épiphanie pour sa quatrième édition les 23 et 24 janvier prochains. Passionnés d'activités hivernales et amateurs de musique traditionnelle vont pouvoir s'éclater. Le samedi soir à l'église, Volage et Artifice feront lever le party avec un spectacle haut en couleur. Et vendredi à la brasserie 341, ne manquez pas Mythes et Légendes pour lancer le festival en grand. Les billets sont en vente maintenant. Festival Plaisir et Tradition de l'Épiphanie 23 et 24 janvier 2026. Pour tous les détails et la billetterie, plaisiretradition.ca.
Concours Calendrier de l'Avent.
40 jours pour les 40 ans.
L'indice du jour. Rire.
L'actualité de ce mardi 9 décembre en manchette, deux autres pompiers de Saint-Félix-de-Valois congédiés. On négocie toujours chez Air Transat et le transporteur Exo abandonne des projets. Pierre Jubinville, tout d'abord, on se prépare pour la première tempête de l'hiver.
Oui, à une bonne bordée de neige, Pierre Corbin d'Hydrométéo vient tout juste de nous faire connaître ses prévisions. Donc, 15 à 25 cm en général d'ici demain, en fin de journée, et un peu moins dans l'extrême sud. Il y aura de la poudrerie jeudi et le retour des températures très froides.
On a appris aujourd'hui le décès d'une grande dame qui a marqué le milieu culturel.
Oui, la doyenne des comédiennes, Béatrice Picard, est décédée. Elle avait 96 ans. Tantôt au cinéma, tantôt au théâtre, bien malin celui qui peut réciter la liste de ses rôles. Annie Guillemette relate les grandes lignes de sa carrière.
Née dans la petite Italie en pleine grande crise, Béatrice Picard a pour plusieurs toujours fait partie du paysage artistique québécois. Elle a défendu des dizaines de personnages avec lesquels elle disait tomber en amour. Elle a fait ses débuts dans Le Survenant dans les années 50.
Je suis le survenant tranquille.
Je peux se vanter de t'avoir fait attendre.
Savez-vous si c'est lui que j'attends?
La très huppée Madame Tassé dans Symphorien est aussi entrée dans plusieurs foyers du Québec.
Mais je n'ai pas besoin de l'appui des gens de votre rang, mademoiselle. Voulez-vous que je vous dise ce que vous êtes, madame? Une pèteuse de brou!
Après Un gars, une fille, c'est avec la voix de Marge Simpson que Béatrice Picard s'est fait connaître des plus jeunes générations.
Soulever le double de charge que je soulevais avant de commencer.
Celle qui était jeune à jamais dans son cœur a publié sa biographie à l'aube de ses 90 ans. Avant, elle n'était pas assez vieille. Elle aura d'ailleurs continué de jouer par la suite. On l'a vu dans District 31, dans Les Mecs, jouer parfois la femme diminuée, mais surtout déplaisante.
Mon capitaine! Est-ce qu'on va pouvoir commander ce poulet?
On va t'en commander, moi, grandement.
Mais pendant toute sa carrière au petit et au grand écran, la mère de quatre enfants a aussi été une femme de théâtre. À la fin de sa vie, Béatrice Picard affirmait encore vouloir jouer jusqu'à 100 ans, après quoi elle pourrait penser à la retraite. Annie Guillemette, pour Cogeco Nouvelles.
Une grande dame, une grande comédienne. Il faut dire aussi qu'elle s'était rendue jusqu'à Hollywood avec un court-métrage de Marianne Farley. Le film s'appelait Marguerite. C'était magnifique. Pierre, deux autres pompiers suspendus à Saint-Félix.
Oui, ça ne s'améliore pas le climat à Saint-Félix. La mairesse Audrey Boisjoli a refusé hier soir, lors de la séance du conseil municipal, de fournir des précisions au porte-parole du SCFP, Maxime Valade, dans ce dossier. Ceux-ci, les pompiers, se sont à nouveau présentés à la séance hier soir pour dénoncer la suspension sans solde de deux autres pompiers, dont le président du syndicat, pour une période de sept jours. C'est un peu long comme suspension. La semaine dernière, deux autres pompiers étaient aussi congédiés et à ce jour, le syndicat n'a toujours pas reçu de lettre expliquant les raisons de leur renvoi. M. Valade a tenté de connaître les raisons qui ont amené la municipalité à prendre des mesures disciplinaires.
Ça serait difficile pour moi de vous répondre ce soir par rapport à ça, parce que sinon, il faudrait que je vous donne du détail de comment s'est passée la situation et pourquoi les gens sont congédiés. Donc, je n'irai pas là, M. Valade.
Parfait. Vous ne m'attendez pas à autre chose, bien sûr, mais que les citoyens quand même soient au courant de la situation à présent.
Moi, ce que je vous dis, c'est que depuis le début, c'est qu'on ne rentrera pas dans le détail précis de pourquoi il y a des dossiers disciplinaires de chacun de nos employés qui sont bloqués. Je pense que ce n'est pas... premièrement, c'est confidentiel. On reste toujours dans des termes d'ordre quand on fait des congédiements, quand on fait des suspensions, puis vous comprenez pourquoi. C'est même pour le respect des employés pour lesquels qui sont suspendus.
Et maintenant, des négociations de la dernière heure chez Air Transat.
Oui, c'est le cas de dire, de la dernière chance aussi, on pourrait dire ça. Mais déjà, certains vols sont annulés en raison du rapatriement des appareils, des vols surtout vers l'Europe. Le président du syndicat, Louis-Éric Mongrain, affirme que tout est mis en œuvre quand même pour obtenir une entente.
Ça, on le prend en considération. Il faut savoir que dans notre équipe de négociation, il y a des analystes financiers, puis nous, on regarde, bon, quelles sont les réalités du marché pour un pilote de ligne au Canada en 2025, ça, c'est un. Et de deux, quelle est la capacité de payer de l'entreprise? Nous, on a tout intérêt à ce que la compagnie soit en mesure de survivre, et non pas juste de survivre, de fleurir et de prendre de la croissance.
Des coupes massives chez Exo, Pierre.
24% dans ses investissements en immobilisation. L'organisme gère des trains et des autobus de banlieue, notamment à Repentigny, Terrebonne et Mascouche. Il affirme de ne plus pouvoir maintenir les investissements de 2,5 milliards sur 10 ans. Et le budget passe même sous la barre des 2 milliards.
En terminant, on parle d'un automobiliste téméraire à Berthierville.
Oui, qui a été capté à 173 km/h dans le secteur jeudi dernier. Il a été pris en flagrant délit par un radar. Le jeune homme de 19 ans a passé un test de dépistage d'alcool qui a confirmé la présence d'alcool dans son sang. Il était soumis à la mesure zéro alcool en raison de son âge. Alors, trois infractions, dont la plus grosse, 1 461 $ et 14 points d'inaptitude.
Ben merci Pierre Jubinville.
Bonne soirée.
Il est 16h38.
Lanaudière PM. Lanaudière PM.
Claude Fournel.
Lanaudière PM. Éducation.
Le syndicat de l'enseignement du Lanaudière questionne la directive en matière de civilité là, qui va entrer en vigueur dans les écoles à partir du mois de janvier. Ce sera monsieur ou madame lorsque les élèves vont vouloir s'adresser aux enseignants, en plus de les vouvoyer. François Morin échange là-dessus avec le président du syndicat, Mathieu Lessard.
Mathieu Lessard, donc, Québec qui a décidé, ce sera ni plus ni moins que monsieur, madame, là, lorsque les étudiants vont devoir s'adresser au professeur.
Effectivement, la directive est sortie pour l'encadrement là, des nouvelles règles de civisme qui étaient une priorité là, de l'ancien ministre de l'Éducation, Bernard Drainville. Officiellement, à partir de janvier, là, il y aura introduction du vouvoiement obligatoire et de l'interpellation de manière très directive là, à l'égard du personnel, c'est-à-dire d'interpeller le personnel par le biais de madame et monsieur, laissant évidemment de côté le personnel qui s'identifie là, autrement, donc de manière non-binaire.
Je vais poser la question, même si j'ai une petite retenue, est-ce que ces récriminations du personnel non-binaire, c'est justifié?
Il faut comprendre que dans le cadre des valeurs hein, de la société québécoise, on prône beaucoup le respect, la tolérance. On retrouve même la tolérance et le respect à travers la charte québécoise. On retrouve également le respect à travers le Code civil du Québec. Puis on se rappelle qu'à travers le Code civil, on est maintenant en mesure d'avoir, je veux dire, une troisième voie. Hein, il y a madame, il y a monsieur et il y a la troisième voie possible. Mais lorsqu'on parle du monde scolaire, le personnel enseignant là n'est pas exclu de la société civile, hein, fait partie intégrante de la société. Ce faisant, on trouve que c'est extrêmement rigide dans les circonstances. Pour les personnes qui considèrent qu'ils doivent être interpellés d'une façon différente, puis la directive ne le permet pas à la lettre là, lorsqu'on le lit.
Et dans le sens contraire, quelle est la directive là, qui est envoyée là, au personnel enseignant?
On va dire le personnel enseignant, de façon quotidienne, doit avoir un comportement empreint de respect. Il doit aussi accepter les différences et tolérer justement ces différences-là de manière respectueuse. Et tous les élèves du groupe doivent aussi, je veux dire, apprécier, là, permettez-moi l'expression, là, apprécier les différences, parce que la société, hein, effectivement, on n'est pas tous beige. On a tous des couleurs différentes, on a tous des valeurs différentes, on a tous des images différentes. Donc, il n'y a aucun élève qui est identique, puis les élèves entre eux doivent se respecter. Le personnel doit respecter l'entièreté des élèves, mais lorsqu'on en vient à interpeller le personnel enseignant, ben ça revient à la première question initiale. Pourquoi diantre uniquement madame et monsieur, alors que c'est possible d'y aller d'une façon différente et prôner la tolérance et le respect de la différence?
On comprend que personne ne peut être contre la vertu, mais dans le processus, est-ce que le gouvernement n'a pas fait un peu preuve d'improvisation ou a peut-être nivelé un peu par le bas?
Le ministre Drainville a usé de ses pouvoirs de ministre en modifiant la loi sur l'instruction publique. Là, pour les gens qui nous écoutent, là, c'est pas seulement leur pain et leur beurre à tous les jours, là. Mais cette loi-là a été modifiée pour que le ministre puisse s'immiscer dans la gestion fine des écoles, allant même jusqu'à une intervention directement dans la classe. Ça, c'est le principe même de la modification de la loi sur l'instruction publique. Dès lors, le ministre s'est aussi arrogé le pouvoir de venir interférer dans les codes de vie, chose qui appartiennent et qui appartenait, je veux dire appartenait et appartiennent encore, mais d'une façon beaucoup moins importante, au conseil d'établissement, puis par extension, aux différents membres du personnel de l'école, au conseil des élèves, etc. Et là, par cette imposition-là, directement de directive impliquant le vouvoiement puis l'interpellation par madame et monsieur uniquement, le ministre a, par règlement, est venu imposer dans les codes de vie des écoles un encadrement restrictif et limitatif. Ce faisant, bien qu'on sait que dans certains milieux, il semble y avoir une ouverture, une souplesse, ben les directives envoyées au centre de service et aux directions d'établissement sont tout autres. Donc, il faut être capable de trouver un équilibre. Puis ça serait justement pertinent, si on tente de s'immiscer dans les codes de vie, ben d'envoyer une directive claire qui dit que ben il y a une troisième voie possible dans les circonstances. Là, plusieurs soulèvent la possibilité d'interpeller le personnel qui s'identifie comme non-binaire par le biais de prof ou professeur avec le nom de famille, puis continuer avec le vouvoiement par la suite, afin de ne laisser personne de côté. Au même titre qu'on doit le faire dans la classe, là, sur une base quotidienne.
Et faut-il le rappeler, peut-être en terminant, que le gouvernement a même imposé, ou plutôt interdit l'utilisation de certains termes là, pour justement le niveler le dialogue?
Oui, on est restrictif. Le civisme, c'est un élément clé. Il y a des problématiques, des enjeux avec le civisme dans nos établissements. Même chose avec la violence. Le personnel enseignant avait été sondé d'ailleurs sur le pouvoir du vouvoiement en termes de frein quant aux écarts, là, aux manquements au niveau du civisme et de la violence. Puis, comme ça existait dans plusieurs établissements déjà, ça n'a pas empêché des écarts justement de langage, puis des excès de violence. Ce faisant, ben il faut aller au-delà de cet enjeu-là. Et adresser, là, excusez-moi l'anglicisme, là, mais les réelles préoccupations du milieu actuellement. Puis je pense que la ministre Lebel actuellement doit prendre fait et cause de l'état du réseau, puis recentrer le discours sur les priorités. Puis justement, si on peut éviter une diversion avec l'enjeu de madame et monsieur, permettre une troisième voie pour se concentrer sur de véritables défis que rencontre le réseau, ben je pense que tout le monde va en sortir gagnant.
Et j'ajouterais que c'est un débat de société, non seulement dans le milieu de l'éducation, là, mais c'est très, très loin d'être terminé. C'était Mathieu Lessard, le président du syndicat de l'enseignement du Lanaudière. Dans un moment, Pierre Paquette.
Chez Moto du Charme, découvrez les souffleuses Honda, une qualité et une fiabilité inégalées. Nous avons des souffleuses éco-énergétiques, robustes et fiables pour rendre votre hiver beaucoup plus agréable et contrer les tempêtes. Chez Moto du Charme, nous sommes aussi équipés des génératrices Honda, la marque de génératrices portatives la plus vendue au monde. La meilleure pour vous réchauffer ou vous éclairer à tout moment. Que ce soit pour un achat de VTT ou de produits mécaniques Honda, Moto du Charme est votre concessionnaire de référence.
La clinique podiatrique de Joliette vous informe.
Vous souffrez d'une fasciite plantaire, d'un oignon, d'une verrue, d'une infection ou d'une fracture? Venez rencontrer mon équipe à la clinique podiatrique de Joliette au 222 de la Visitation à Saint-Charles-Bromé. Nous offrons une gamme complète de services podiatriques tels que soins des pieds, orthèse plantaire, injection de cortisone, chirurgie mineure, radiographie ainsi que la podiatrie sportive. Renseignez-vous au 450-398-PIED 398-7433, podiatrejoliette.com.
Bonjour, c'est Kim de Joliette Nissan. À l'approche des fêtes, nous tenons à vous remercier de votre confiance et de votre loyauté. Merci d'avoir choisi de prendre la route avec nous cette année. Joyeuses fêtes, prudence sur les routes et surtout, nous vous souhaitons santé et bonheur pour 2026.
À CFNJ, voici le commentaire de Pierre Paquette.
Salut Pierre, j'ai remarqué que dans l'actualité aujourd'hui, c'est la première fois depuis un bon moment qu'on parle pas du Parti libéral du Québec.
Oui, j'imagine que Pablo Rodriguez va être content.
On va parler de l'ex-directeur de campagne de Sol Zanetti qui claque la porte de Québec solidaire pour le Parti québécois.
Oui, alors ça, c'est le dernier en liste parce qu'on a eu plusieurs au cours des dernières semaines. Bon, évidemment, il y a Vincent Marissal, mais il y a aussi la candidate pour Québec solidaire en Terrebonne qui s'est présentée deux fois pour... le parti qui a décidé de rallier le Parti québécois. Donc,
oui, elle avait été laissée à elle-même, on se souvient, aux dernières élections.
Ça a été assez pathétique. Là. Moi, j'avais suivi beaucoup cette élection-là parce que ma conjointe a une boutique à Terrebonne, donc c'est un coin que je côtoie beaucoup. Et puis, vraiment, c'était pathétique. Personne de l'organisation... de la direction qui est venue la visiter, il n'y a eu aucun coup de pouce. Alors, je la comprends un peu de comprendre que l'avenir de l'indépendance, ça passe pas par Québec solidaire. Puis c'est un peu ce que M. Thibodeau nous dit aujourd'hui.
Oui, Jimmy Thibodeau, il faut rappeler qu'il a été porte-parole d'Option nationale. Option nationale qui était un collectif à un moment donné qui est devenu un parti et puis on a fusionné Option nationale avec Québec solidaire.
Ouais, ça a été un parti fondé par Jean-Marie Hossan, qui, lui, par contre, s'est présenté après pour le Parti québécois. Donc, c'est un peu comme des gens qui étaient déçus peut-être du PQ. Puis, il y a eu une évolution. Certains sont allés à Québec solidaire. Donc, d'autres sont retournés au PQ. Mais oui, effectivement, il vient d'Option nationale. Comme d'ailleurs, venait Catherine, la députée de Québec.
Oui, je l'ai. Loin. Oui, Dorion.
Dorion, oui. Okay,
et comme et Sol Zanetti également.
Oui, Sol Zanetti aussi vient d'Option nationale. Alors, c'est un courant qui était quand même assez présent au sein du Québec solidaire, mais qui tend à quitter en décembre 2023. Il y en a eu déjà une quinzaine qui ont quitté disant qu'il n'y avait pas d'avenir pour l'indépendance à Québec solidaire qui ralliait le Parti québécois. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu le fruit de la polarisation là entre souverainistes et fédéralistes auquel on va assister au cours de l'année qui vient, étant donné que le Parti québécois, qui est quand même en avance dans les sondages, promet de tenir un référendum la première année de son dans son premier mandat. Mm-hmm. Et donc, la polarisation entre souverainistes et fédéralistes revient. Bon, je pense que si le Parti libéral avait pas les problèmes conjoncturels qu'il a présentement, ça serait encore plus visible dans les sondages. Mais c'est clair que c'est au détriment de Québec solidaire et de la CAQ que cette polarisation-là se fait.
Bon, il
et
est clair que chez Québec solidaire, il est clair qu'on retrouve bon de la gauche woke et de la gauche souverainiste et de la gauche fédéraliste également. Alors exactement. Donc, les fédéralistes chez Québec solidaire sont pas intéressés avec l'option indépendantiste. Là.
Absolument pas. Et puis, on l'avait déjà évoqué dans une émission précédente. Mm-hmm. Tu te rappelles, on avait tenté de nous remettre à l'ordre, mais on avait fait bien nos devoirs. Il y a la moitié des militants ou des membres de Québec solidaire qui se déclarent fédéralistes et qui voteraient non à un référendum. Ouais. Alors, c'est pas marginal, là. C'est vraiment... On retrouve là-dedans un peu toute la mouvance autour du NPD, des mouvements de gauche qui ne sont pas indépendantistes se retrouvent à Québec solidaire, parce qu'évidemment, il n'y a pas de NPD Québec, là. Il y en a eu un moment donné, mais là, il n'y en a plus. Et donc, s'ils veulent se retrouver dans une formation de gauche, ben ils n'ont pas le choix, ils vont à Québec solidaire. Mais ce ne sont pas des indépendantistes. Et ça a paru très bien lorsque, par exemple, le PQ et la direction de Québec solidaire ont cherché, avec le Bloc québécois d'ailleurs, à créer une espèce de convergence des partis souverainistes avec une entente qui a été présentée au Conseil, je ne sais pas si ça s'appelle Conseil général, Conseil national de Québec solidaire, et les militants qui étaient présents l'ont rejeté. Alors ça, c'était du temps où Jean-François Lisée était chef du Parti québécois, et moi, je pense que ça montre effectivement que même si la direction, j'ai aucune crainte au fait que Sol Zanetti ou la direction de Québec solidaire soit indépendantiste. Mm-hmm. Mais comme les militants sont plutôt de différents courants, ben ça peut pas atterrir à la base de Québec solidaire. Puis on l'avait vu à ce moment-là, puis on va le revoir aussi probablement. Puis c'est un peu ce que dit Jimmy Thibodeau, c'est que plus l'échéancier va s'avancer, plus Québec solidaire va être amené à imploser. Parce que, justement, les forces fédéralistes au sein de Québec solidaire accepteront pas que la direction, que ce soit Sol Zanetti ou Roba Gazal, soit assis à côté de Paul Saint-Pierre Plamondon. Alors, je pense que sa lettre, même si moi-même je le connais pas personnellement, illustre assez bien.
Ouais, c'est une lettre ouverte dans Le Devoir de ce matin, oui, là, de Jimmy Thibodeau. Pierre Paquette, c'est déjà tout le temps dont on dispose. Bon, ben, on va se reparler demain.
Oui, exactement.
Bonne fin de journée.
OK, bonne fin de journée à toi aussi.
Je salue et remercie nos collaborateurs à l'émission aujourd'hui, François Morin, Pierre Jubinville, ainsi que Pierre Paquette. Ici Claude Fournel. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Il y a le 5 à 7 trad qui s'en vient dans les prochaines minutes avec Justin Lapierre. Et également, faut pas manquer T-shirt, jeans, basket sous le coup de 18 heures avec la formation Jean Ticorum. La vie dans la Naudière dans un moment avec Roselyne Miron Pichet. Nous, on sera là demain, 17h, pour une autre édition de La Naudière PM. Salut!